Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Que nous fassions une lecture. Alors, que vous connaissez, hein, vraisemblablement, mais je pense que à chaque fois que nous ouvrons la Bible, que nous lisons, que nous méditons, il y a toujours des choses à découvrir, des choses nouvelles. Alors, on va prendre l'évangile de Luc, mais auparavant, on va lire un passage dans Romains, chapitre 5, verset 20. Si vous me le permettez, je vais prendre la traduction moderne de la Bible, traduction, on l'appelle dynamique, parce qu'elle est écrite en français, peut-être plus récent, plus moderne, plus usité aujourd'hui. Alors, on va faire des comparaisons, vous allez voir avec votre propre Bible. Romains, chapitre 6, verset 20. Je me trompe. Chapitre 5, c'est cela, vous l'aviez deviné? Ah, je l'ai dit. Bon, alors donc, je ne vois pas très bien ce soir. Oui, pardonnez-moi. Alors, Romains 5, verset 20. La question est posée, pourquoi alors la loi? Elle est intervenue afin de démasquer le péché et de mettre en évidence sa puissance. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, oui, au lieu même où il s'est manifesté dans toute son horreur, la grâce divine a atteint sa plénitude. On va retenir quelque chose. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Et on va en donner la preuve à travers un autre passage, une lecture dans Luc, je vous ai dit, chapitre 7, verset 36. Et nous allons voir à la fois les effets, les conséquences, parce que le Seigneur regarde au salut. Le Seigneur a les yeux tournés vers, tous les hommes, et nous allons être confrontés avec deux personnages. L'un qui va s'approcher de Jésus avec une véritable repentance, une conviction de péché, et puis l'autre qui ne sait même pas. Finalement, qu'il est pécheur, qu'il pense avoir tout bien fait dans sa vie, et on va voir la différence. Alors, Luc 7, verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger chez lui. Jésus accepta et se rendit dans sa maison et se mit à table. Survint une femme qui avait une mauvaise réputation dans la ville. Elle avait appris que Jésus était invité. Elle se plaça derrière lui et se mit à pleurer. Ses larmes coulaient sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. Elle les couvrit de baisers et répandit sur eux un parfum précieux. En voyant cela, son hôte se dit, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, et que c'est une personne de mauvaise réputation. » Jésus, devinant ses pensées, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur, un débiteur, vous l'appelez comme vous voulez, à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait le salaire de 500 journées de travail, le second, celui de 50 journées. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il en fit cadeau à tous les deux. À ton avis, lequel des deux aura le plus de reconnaissance envers lui ? « Je suppose, répondit Simon, que ce sera celui auquel il a fait le plus grand cadeau. »« Tu as tout à fait raison, lui dit Jésus. » Mais montrant la femme, Jésus continua. « Tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour laver mes pieds. Elle, par contre, me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a répandu un parfum précieux sur mes pieds. Dans ces conditions, Simon, crois-moi, Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, et c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui pense avoir peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les autres invités commencèrent à se demander, « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « C'est ta foi en moi qui t'a sauvé. Rentre en paix chez toi. Rentre dans ta maison. » Alors, il y a quelque chose de tout à fait particulier dans ce récit qui nous est rapporté par Luc, et qui nous montre la différence, comme nous l'avons souligné il y a un instant, entre celui qui, eh bien, est tout à fait conscient de sa misère morale et autre misère qui va avec. Parce que souvent, eh bien, la misère morale amène toutes sortes de dégradations dans la vie, de dépréciation finalement de notre propre dignité. Et puis, il y a celui qui, quelque part, se dit, moi, finalement, en comparaison de celui-ci ou de celle-là, je suis quand même mieux. Je n'ai ni tué, je n'ai pas volé, je vais, eh bien là, faire mes devoirs religieux, enfin bon, tout ce que voudrait, et même s'il n'est pas religieux, il a tout simplement une conscience tranquille, enfin qu'il se donne une conscience tranquille, en disant, bien voilà, je suis quand même quelqu'un de bien. Et c'est un texte rare que nous avons à méditer ce soir, comme il y en a d'autres, mais quand même, là, il y a quelque chose de tout à fait particulier que j'aimerais souligner dans notre entretien, qui nous montre à la fois la conscience de cette femme, de sa misère, et de ce qu'elle va recevoir de la part de Jésus, et l'ignorance ou la méconnaissance totale de cet homme qui s'appelle Simon. C'est un homme religieux, il est pharisien, il se trouve là certainement dans une situation privilégiée, mais dont il est tout à fait inconscient de ce qu'il est lui-même. Et il se permet de juger cette pauvre femme. Ils peuvent se permettre même de juger Jésus. S'il savait de quelle espèce est cette femme, il ne la toucherait pas, ou il ne s'adresserait pas à elle. Alors, on va reprendre un petit peu le cours de notre lecture. Nous voyons que Jésus va être invité, non pas chez des gens comme Zachée ou d'autres, mais il va être invité par quelque part de cette catégorie d'hommes qui ont été ses adversaires, qui ont été ses ennemis. Jésus va naturellement répondre à l'invitation puisqu'il nous est dit qu'il a accepté. Mais Jésus n'est pas dupe. Il sait très bien que quelque part, eh bien, ce n'est certainement pas par amour pour Jésus que ce Simon le pharisien va le faire entrer et lui offrir un repas, mais c'est simplement pour le mettre un petit peu à mal, lui poser des questions captieuses et voir si Jésus s'en sort. Ça, c'était la spécialité des pharisiens. Ils venaient voir Jésus, ils essayaient de le prendre au piège avec des difficultés, peut-être des questions difficiles, mais à chaque fois, Jésus va se servir de cette provocation de ses détracteurs pour en faire ressortir un enseignement qui nous sert encore aujourd'hui. Donc, on s'aperçoit que nous touchons du doigt avec la personne de Jésus une sagesse et une intelligence qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas une sagesse humaine, mais quelque chose qui vient d'ailleurs. À tel point que, à chaque fois que Jésus va donner ce genre d'enseignement, celui ou ceux qui lui posent cette question vont être complètement déconcertés, ne vont plus savoir quoi répondre. Et nous voyons que donc, Jésus donc est invité à manger, et il accepte. Et on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas accepté, puisqu'il était venu pour sauver tous les hommes. Il y a ceux qui acceptent et ceux qui refusent. Et Simon faisait partie plutôt de ceux qui avaient des préjugés. Comment est-ce que ça veut dire préjugés ? C'est juger avant. C'est juger prématurément, sans savoir. Et nous voyons que Jésus va y aller, et tout simplement, il se rendit à sa maison, il se met à table. Alors, vous avez remarqué que je ferai exactement la même chose avec chacun d'entre vous. Je vous invite à dîner et j'enlève les tables et les chaises. Et tout le monde est par terre sur les tapis ou sur des petits coussins. Vous avez bien compris ce que ça veut dire, hein ? C'était la méthode orientale, la méthode de l'époque. Alors si vous avez des problèmes de digestion, ça va poser peut-être des difficultés parce qu'on n'a pas l'habitude de manger comme ça. Mais c'était la façon de faire à l'époque. Et voilà qu'à un moment donné, et on peut se représenter cette maison ouverte avec une cour et on devait manger certainement dans la cour intérieure. comme aujourd'hui dans l'Orient, il y a beaucoup de maisons avec des cours intérieurs, et comme le temps s'y prête, eh bien on mange comme ça dehors, et est survenue de la rue une femme, et il nous est simplement rappelé que c'était une femme de mauvaise vie, je crois, dans votre traduction. Moi, pour moi, c'était une femme de mauvaise réputation dans la ville. Elle était connue de tout le monde pour avoir une petite moralité, tout simplement. On pourrait dire, voilà, on pourrait lui donner des noms, hein, que nous connaissons malheureusement. Mais toujours est-il qu'elle va rentrer. Et elle est rentrée dans cette maison précisément, non pas parce qu'elle était en train de déambuler sans savoir ce qu'elle allait faire, est-ce qu'elle allait, où elle allait, mais parce qu'elle a appris que Jésus était dans cette maison. Donc, on s'aperçoit que c'était pas pour elle venir un petit peu titiller les pharisiens qui avaient quand même une mauvaise langue vis-à-vis de ces femmes-là. Hein. Enfin, peut-être que certains avaient peut-être aussi peut-être des relations avec ces gens-là. Enfin, excusez-moi, je voudrais pas aller trop loin, mais vous savez, c'est pas parce qu'on dit croire en Dieu que quelque part... mais bon, on va laisser la morale enfin, en tous les cas, à Simon. Mais elle a appris que Jésus était invité et elle est rentrée dans cette maison. Je pense qu'on peut s'imaginer dès l'instant que Simon a dû sourciller un petit peu en disant « Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ?» Elle était connue, hein. Elle avait une réputation, mais pas une bonne réputation. Et il semblerait que Simon n'ait rien fait à ce moment-là. Elle l'a laissé rentrer. Ou peut-être se reprenant, se disant « Mais on va voir comment Jésus va réagir avec une prostituée. On va voir comment il va... Est-ce qu'il va la chasser? Est-ce qu'il va lui dire que c'est une mauvaise femme, qu'elle n'a pas de morale, etc. » Donc, il y avait peut-être les deux sens, mais bon, ils sont pas décrits, mais on peut toujours peut-être le comprendre. Donc, elle est rentrée, et elle se plaça derrière Jésus. Et là, une chose va se passer, qui est soulignée, elle va se mettre à pleurer. Ouais. Elle va pleurer. On se demande pourquoi, mais on va avoir la réponse d'ici quelques instants, parce que c'est la clé, finalement, de la compréhension de notre récit. Elle est venue vers Jésus, elle est rentrée dans cette maison qui, certainement pas, pour elle, pouvait lui donner un bon accueil. Mais c'est parce que Jésus était là, et là, chargée probablement, avec une peine sur le cœur, avec quelque chose sur la conscience de très lourd, elle s'est tournée vers Jésus, elle est allée vers Jésus, et ses larmes coulaient sur les pieds de Jésus qu'elle essuya de ses cheveux et les couvrit de baisers et répandit sur eux un parfum précieux. Ne pas confondre avec Marie de Béthanie. Attention, je le dis, parce que Marie de Béthanie était la sœur de Lazare et c'était encore un autre personnage. Elle, c'est une prostituée. C'est une courtisane, tout simplement. Et nous nous apercevons qu'il y a plusieurs étapes dans cette... Elle se place derrière Jésus. Elle pleure de tout son, sincèrement, et elle va humidifier les pieds de Jésus, et elle va les essuyer, elle va se défaire la chevelure, c'était quand même quelque chose, hein. C'est un geste quand même qui voulait dire quelque chose, hein. Défaire sa chevelure et de répandre du parfum sur les pieds de Jésus. Alors, en voyant cela, son hôte, c'est-à-dire Simon, va se dire en lui-même, c'est dans votre traduction, il se dit en lui-même, si cet homme, en parlant de Jésus, était vraiment un prophète, bien, il saurait quelle est cette femme qui le touche et que c'est une personne de mauvaise vie. Donc, nous voyons que la première chose qui montre les dispositions ambiguës de Simon, elles ne sont peut-être pas hostiles, mais il est bien pharisien. Hein, il a vraiment tout simplement l'esprit du pharisien et il commence par sanctionner, il commence par supputer que Jésus n'est pas un prophète. Alors ça commence à le conforter en disant mais on parle de Jésus, il est prophète, il est fils de Dieu, il est le Messie, etc. Bon, là je l'ai chez moi, je veux vérifier quand même les choses. On va en avoir le cœur net. Et il se dit en lui-même mais si véritablement Jésus est celui que l'on dit, parce que ce Jésus, il fait grand bruit partout, eh bien, quelle est cette femme qui le touche? Eh bien, il saurait que c'est une phase de mauvaise vie et on ne touche pas, on ne s'approche pas de ce genre de personnage, naturellement. Donc, il pose un jugement quelque part. Simon pose un jugement sur Jésus. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose de caché? Puisqu'il nous est dit que Dieu... là, eh bien, connaît, sonde les cœurs et les reins, que rien n'est caché, qu'il est capable de lire comme dans le cœur dans la vie des hommes, comme dans un livre ouvert. Et nous voyons que Jésus devine les pensées. Jésus nous pourrions dire manifeste, comme le prophète, une parole de connaissance. Il sait à l'instant même ce qu'il y a, ce qui se passe, les sentiments, les dispositions, peut-être même les actes, parce que le Seigneur sait tout. Il devine, il est dit deviner, il a la pensée, et il va lui dire, il va interpeller Simon, il va lui dire ces paroles, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Je m'imagine que Simon, là, va s'attendre à ce que Jésus va prendre position contre cette situation. L'incursion de cette femme de mauvaise vie dans la maison d'un pharisien notoire, quelqu'un qui a une bonne réputation. Et on s'aperçoit que il va répondre, naturellement, Simon va répondre, « Mais parle, parle !» Il s'attend que Jésus se mette de son côté, quelque part. Que Jésus lui dit, bien tu vois, c'est vrai que moi je suis aussi un peu scandalisé de voir comment cette femme est entrée chez toi, comment, voilà, tout simplement. C'est le contraire qui va se passer. Et, permettez-moi de le dire, Simon va en avoir pour son argent. Hein. Et quelle belle leçon pour chacun d'entre nous, parce que c'est un enseignement qui nous est donné. Il était une fois, Jésus le met sous une forme de parabole, il était une fois un prêteur, à qui deux hommes devaient de l'argent, un débiteur, quelqu'un qui vous a fait crédit. Le premier devait l'équivalent d'un salaire de 500 journées de travail, c'était une somme considérable, on ne peut pas s'imaginer. Le second, celui de 50 journées, une somme beaucoup moindre, infiniment moindre. Comme l'un et l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il en fit cadeau à tous les deux. Et la question qui va surgir, s'adressant à Simon, « À ton avis, lequel des deux aura le plus de reconnaissance envers lui ?» Alors vous l'avez compris, hein, on aurait tous répondu certainement comme Simon, ce qu'il va dire. « Je suppose, » répondit Simon, il s'avance pas trop, il dit « Je suppose que ce sera celui auquel on a fait le plus grand cadeau. » Et c'est là le fond de notre réflexion ce soir. Lequel on a fait le plus grand cadeau ? C'est important ? C'est quelque chose d'essentiel ? Parce que ça va donner la valeur, en quelque sorte, de l'état de notre cœur, de cette capacité de reconnaissance et de gratitude. Si, par exemple, on me fait une petite chose courante, indifférente des choses de la vie, bon, merci. Maintenant, j'ai tout perdu, je suis dans une situation épouvantable, parce que j'ai une dette colossale que je ne pourrai jamais rembourser, et que l'on vient me dire, eh bien voilà, maintenant tu vois, cette grosse dette, c'est terminé. C'est terminé pour toi qui dois une fortune, et c'est terminé aussi pour l'autre pour être juste. L'un et l'autre. Et c'est vrai que celui qui aura le plus de reconnaissance, c'est celui où on aura véritablement remis la plus grande et la plus grosse des dettes, naturellement. Ça, c'est une logique. Je voudrais dire quelque chose au départ, dans la suite, c'est que figurez-vous, le réveil de conscience de la femme en question, de cette prostituée, a pour cause non un reproche de Jésus, parce que vous avez remarqué que Jésus ne lui fait aucun reproche. Peut-être que Simon s'attendait à ce que Jésus fasse un reproche à cette femme. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de, là, d'essuyer les pieds avec tes larmes? Qu'est-ce que c'est que ces larmes de crocodile, on pourrait dire peut-être, hein? On pourrait dire qu'elle jouait la comédie, tout simplement, qu'est-ce qu'elle avait à faire avec Jésus et pourquoi venait-elle faire se montrer, peut-être, je ne sais pas. Mais c'était pas ça, là, finalement, la sincérité de cette femme n'est pas à mettre en doute. Donc, ce n'est pas un reproche, mais cette femme, quand elle est rentrée dans cette maison, quand elle a osé rentrer chez un pharisien qui méprisait de telles personnes, ce n'est pas un reproche, mais plutôt l'amour qu'elle ressent de Jésus pour elle, malgré son état de prostituée. C'est ça la question. Toute la question est là. C'est pour ça que la grosse dette, c'est elle. Le peu, enfin le moindre, ça ressemblerait plutôt à Simon. Et cette femme va avoir un réveil de conscience, parce que c'est ça la repentance. C'est ça le salut. C'est ça le pardon de Dieu. C'est un réveil de conscience. C'est pas d'appuyer sur un bouton en disant « aujourd'hui je me repens, aujourd'hui je pleure parce qu'il faut que je pleure, parce qu'il faut absolument que je pleure. » Et ça ne changera rien. La question n'est pas là. Mais c'est parce qu'elle va sentir, elle va avoir ce sentiment, ce pressentiment Elle a certainement déjà entendu parler de Jésus. Peut-être a-t-elle entendu de ce que Jésus ne se détournait pas des gens de mauvaise vie, des publicains, et puis de tous les autres. Et qu'elle s'est dit, mais à moi, dans ma misère, dans ma détresse, dans ma situation de femme misérable, moralement et dans tous les domaines, moi je crois qu'il me faut un homme comme Jésus. Comme la Samaritaine, si vous voulez aller par là. Et là, c'était peut-être encore plus gravissime que la Samaritaine, je ne sais pas. On ne va pas évoluer les deux personnages. Mais toujours est-il que c'est l'amour de Jésus qui va la toucher. Et en fait, d'amour, eh bien, c'est toute la différence qu'il va y avoir dans la notion de prise de conscience du mal, du péché et du pardon de Dieu. Vous savez, je crois que dans ce que nous prêchons et dans ce que nous pouvons représenter en tant qu'Église évangélique, nous ne prêchons pas une repentance religieuse avec une forme, quelque part, de crise religieuse où les gens, eh bien là, soit par peur, soit par crainte, quelquefois on appelle ça des repentances de la dernière heure, parce que les gens savent qu'ils vont partir, ils vont mourir, alors ils se repentent, ils essaient de mettre en règle leur... Et ça, c'est... Il y a peut-être du vrai dedans, hein, j'espère. Mais c'est pas ce que nous disons, c'est pas ce que nous prêchons, c'est pas ce que l'Évangile nous enseigne. L'Évangile nous enseigne que, quelque part, la motivation profonde d'une repentance véritable, c'est l'amour de Dieu pour nous, que nous sentons à ce moment-là, qui nous bouleverse et qui nous met par terre. Nous avons été touchés, nous avons été bouleversés, nous avons été renversés. Ça a été une véritable révolution, parce qu'à un moment donné, alors que nous étions dans l'indifférence, c'est l'amour de Dieu qui nous a transpercés. Et là, nous nous sommes courbés. C'est pas la guerre, c'est pas le reproche, c'est pas la condamnation de Dieu. Ça n'a rien changé, ça ne changera rien. Comment puis-je encore être aimé de Dieu après tout ce que j'ai fait? Ça pourrait se résumer de cette manière. Comment Dieu m'aime-t-il tel que je suis? Eh bien oui, c'est ça la grande nouvelle, c'est ça la chose formidable, c'est que Dieu nous aime tel que nous sommes. Avec nos souillures, avec toutes nos misères, avec tout ce que nous avons fait, avec notre mauvaise langue, avec notre haine, avec peut-être toutes les crasses et toutes les mauvaises comportements que nous avons eus, c'est comme ça que Dieu nous aime. C'est l'histoire du fils prodigue. C'est ainsi que Jésus nous présente la chose. Alors on va faire la comparaison entre nos deux personnages, cette pauvre femme. Toute la différence est là, si je peux rajouter cela, entre elle, cette femme de mauvaise vie, cette femme légère, et le pharisien, elle sait sa condition morale misérable, alors que lui, Simon, n'a même pas conscience de son péché et du mal qu'il a commis. La grande différence. Et la grande différence, on l'a tous les jours. Des hommes et des femmes qui, en ouvrant la Bible, sont touchés par l'Esprit de Dieu, se mettent à pleurer, offrent un parfum, en quelque sorte, qui monte vers le Seigneur, de repentance, qui se tourne vers Dieu. Seigneur, comme le pharisien, comme le publicain, pardon, dans le temple, qui se frappe la poitrine en disant « J'ai péché contre toi ». Le fils prodigue qui revient à la maison et qui présente, finalement, eh bien, qui demande pardon, miséricorde à son père. Oui, elle sait, elle est bouleversée, lui ne sait pas, il n'a même pas conscience. Tout pharisien religieux qu'il est, parce que les principes sont là. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui efface finalement les fautes des hommes. Mais il le sait, mais il ne peut pas le vivre. Il ne sait pas le vivre. Il ne le croit pas d'abord, parce que pour le vivre, il faut le croire. Il croit que tout le reste sont des mauvais et que lui, il est bon. Il croit que tous les autres sont des damnés et que lui, c'est un enfant de Dieu. Mais il n'est pas passé par la case repentance. Il y a des milliers et des millions de gens autour de nous qui se drapent du manteau religieux, qui ont peut-être été des centaines et des centaines de fois dans un confessionnal, mais qui ne sont jamais passés devant Dieu pour demander se repentir. On était parmi ceux-là, hein, quand vous voyez un homme comme Paul, qui tournait dans son pharisianisme, zélé plus que les autres, impitoyable, et tout ce qu'il nous est dit, tout ce qu'il nous dit de lui, jusqu'au jour où il tombe de son cheval sur le chemin de Damas, et là, il va véritablement pleurer. Là, il va y avoir des écailles qui vont tomber de ses yeux. Il va prendre conscience. Il va s'apercevoir qu'il est le dernier des derniers, et il le dira lui-même, il l'écrira en lettres de feu, « Je suis le plus grand de tous les pécheurs !» Et ça, qui c'est qui a pu lui dire? C'est pas sa religion, c'est pas son judaïsme, c'est pas son catholicisme, c'est pas son protestantisme, en parlant pour nous naturellement, ce n'est pas notre conception évangélique, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur nous et qui nous renverse. Ça, c'est une chose. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Elle le sait, lui l'ignore. Et il se trouve bien comme ça en l'ignorant. En conséquence, il ne peut pas mesurer le poids de sa dette envers Dieu. Mais oui, c'est pas possible. Parce qu'il pense que tout est bien pour lui. Qu'il est bien à ses propres yeux. Qu'il est bien aux yeux de sa religion. Qu'il est bien aux yeux de ses concitoyens qui sont comme lui. Alors on revient à notre parabole. Il était une fois donc ce débiteur, ce prêteur, devant deux hommes qui lui doivent, eh bien, de l'argent. L'un, c'est une somme considérable. Cette somme considérable, c'est l'image de celui qui est en dette à l'image de la femme. Considérable, impayable, irremboursable. Fait un peu comme la Grèce, si vous voulez. Enfin bon, je voudrais pas trop faire de la politique. Alors, et le deuxième, toute petite. Enfin, beaucoup moindre, en tous les cas. Et comme l'un et l'autre ne pouvaient pas payer, parce que c'était pas possible, ils n'avaient pas les moyens de pouvoir rembourser, eh bien, le maître, le débiteur, le créancier, a fait grâce aux deux, tout simplement. Ça, c'est la justice. C'est formidable. Alors, c'est sûr que le créancier pouvait dire, moi, c'est mon argent, je perds tout dans cette affaire. Il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau. C'est la miséricorde et la grâce qu'il y a dans ce prêteur, l'image de ce débiteur qui fait grâce. Voilà. Hein, le mal d'argent ne fait pas mourir. Hein. Alors, à ton avis, lequel des dieux aura le plus de reconnaissance? Et Simon répond naturellement, mais ce sera celui auquel on a fait le plus grand cadeau. Chacun d'entre nous, est-ce que nous sommes conscients que Dieu nous a fait le cadeau des cadeaux? Et ça change toute notre vie. Hein. Ça change toute notre vie à plusieurs égards. Parce qu'à ce moment-là, moi, je vais pouvoir adorer Dieu. En sachant que si Dieu n'était pas venu, eh bien j'étais perdu irrémédiablement. Donc la notion de perdition aussi, hein, va venir à ce moment-là. Je vois la différence aujourd'hui. Et puis, une conséquence très pratique, terrestre, humaine, naturelle, c'est que moi, si on m'a fait grâce, je dois faire grâce aussi aux autres. Parce que c'est pas la peine de dire, quelqu'un dira, comme dit l'apôtre Jean, quelqu'un dira, mais moi j'aime Dieu. Et si tu n'aimes pas ton frère, ou ta sœur, ou même ton prochain, eh ben, ne va pas dire que tu aimes Dieu, parce qu'à ce moment-là, c'est une insulte. Hein. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné dans la personne de Jésus-Christ. Vous connaissez Éphésiens, ça c'est l'apôtre Paul, et s'il l'a écrit, c'est qu'il connaissait. Et on va voir, Jésus va faire le balancement hein, entre les deux. Puis montrant la femme, Jésus continue, et il va interpeller Simon, lui dire, mais tu vois cette femme-là? Ah oui, je la vois, elle est rentrée chez moi, je ne l'ai même pas invitée, elle est en train de faire une pantomime, là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Eh bien, Jésus va dire, quand moi Jésus, je suis rentré, selon ta gracieuse invitation à pénétrer dans ta maison et à déjeuner avec toi, eh bien figure-toi que tu ne m'as même pas apporté d'eau pour laver mes pieds, comme il était coutume dans l'Antiquité et dans les maisons d'Orient, eh bien de recevoir les invités aujourd'hui, on ne ferait plus chez nous. Passez donc à la douche avant de vous mettre à table. Oui, parce que les gens marchaient à pied et ils empruntaient des chemins poussiéreux, etc. etc. C'était un honneur, c'était une marque de distinction. Nous, aujourd'hui, on prend l'apéritif plutôt, mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Ouais. Donc, on invite quelqu'un, on lui demande d'aller se laver les pieds. Voilà. Et pareil, et par contre, elle, toi, tu ne m'as pas fait ça. Tu n'as même pas daigné avoir ce petit geste qui est un geste tellement courant en Orient quand on invite quelqu'un. Eh bien, elle, tu sais, cette femme, qui n'est même pas de la maison que tu regardes avec un mauvais œil. Eh bien, quand elle s'est approchée de moi, elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Formidable. On continue. Quand on est invité dans une maison de ce style, chez Simon le pharisien, eh bien, on fait une accolade et on embrasse l'invité. C'est ce que nous faisons, nous aussi. Hein. des gens que l'on connaît bien et des gens que l'on connaît moins bien, et bien on les invite, et parce que ce sont des amis, ou ils vont devenir des amis, ou on veut faire d'eux des amis, et on les embrasse. Mais regarde, tu ne m'as même pas embrassé pour me souhaiter la bienvenue dans ta maison. Mais elle, depuis qu'elle est rentrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Embrasser le visage de quelqu'un, mais quel état d'humiliation d'embrasser les pieds, hein ? Vous vous rendez compte ? Ce qui veut dire qu'elle s'est abaissée jusqu'au sol, jusqu'à la terre, pour finalement, eh bien, me montrer qu'il y a quelque chose dans son cœur. Tu ne m'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête parce que le soleil en Orient, il brûle. Et quand on a marché pendant des heures et longuement sur les chemins poussiéreux, comme on l'a expliqué pour le lavage des pieds, eh bien, on a besoin de ce rafraîchissement, l'onction d'huile en quelque sorte, pour rafraîchir. Mais elle m'a pas donné de l'huile, plus que de l'huile. Elle m'a apporté un parfum, qui est une huile, si vous voulez aller par là, un parfum précieux sur mes pieds. Elle a tout donné, cette femme. Et pourquoi l'a-t-elle donné ? Comme nous l'avons dit, parce qu'il y a eu un réveil de conscience, tout simplement, et parce que elle a senti qu'il y avait un rayonnement d'amour, tiens, c'est le mot, un rayonnement d'amour dans la personne de Jésus. Est-ce que nous croyons que Dieu rayonne d'amour ? Est-ce que nous croyons que sa parole est rayonnante d'amour aussi ? Elle n'est pas là pour condamner, loin de moi personnellement, dans la prédication, de tenir des propos de condamnation ou de rejet. Dieu nous aime et Dieu vous aime. Laissez-vous approcher, croyez à son amour, croyez à sa grâce. C'est ça l'essentiel. Et voilà ce que cette femme a fait. Dans ces conditions, Jésus dit à Simon, crois-moi. On croit Jésus, on ne croit pas. C'est simple, hein. Et là, il y a un appel vis-à-vis de Simon. Crois-moi. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, on va passer à un autre domaine. C'est plus une question morale. C'est plus une question religieuse. C'est plus une question d'altruisme ou de bons sentiments de cœur. C'est une question spirituelle. Et c'est là justement où nous voyons la différence, parce que Jésus va lui dire « Accroche ta ceinture, Simon, parce que t'as pas tout entendu. » C'est comme cet homme qui est paralytique, qui est amené par quatre de ses amis, qui va descendre du toit. Vous avez entendu le message, il était tout récent, là, on l'a partagé ensemble. Et quand Jésus va mettre en équivalence dans le raisonnement, il va dire, mais est-ce qu'il est plus facile à cet homme de pardonner ses péchés ou de lui dire, prends ton lit et marche? Voilà, hein. Qu'est-ce que l'on fait dans cette affaire? Crois-moi, ces nombreux péchés lui ont été pardonnés. Il est bien dit nombreux, innombrables, incalculables. La vie morale de cette femme était ainsi. Et c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Vous savez, quand on est converti, quand on connaît Jésus, quand on sait d'où nous venons, là où Jésus nous a retirés, alors que nous étions finalement dans le ravin, dans le précipice, et quand on est dans le précipice, on regarde le sommet de la montagne, on dit « mais c'est haut, c'est inaccessible, c'est inatteignable, et c'est là où on désespère ». Par contre, quand on est monté en haut de la montagne, parce que Dieu nous a monté en haut de la montagne, et qu'on regarde en bas le fond du ravin, on se dit « mais de quoi le Seigneur m'a sorti, hein ?» Vous comprenez la différence? Au fond, on regarde en haut, impossible. Quand on est en haut, parce que le Seigneur nous a mis en haut, et qu'on regarde en bas, on se dit « mais, c'est pas moi, c'est un miracle de Dieu. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Elle m'a témoigné tant d'amour. Et pourquoi elle m'a témoigné d'amour? Qu'est-ce que Jésus a fait pour cette femme? Il s'est laissé faire, il s'est laissé essuyer les pieds, il a reçu le parfum, visiblement il n'a pas fait grand chose, c'est elle qui a tout fait, mais elle l'a fait avec amour. C'est bien la différence. Et moi je crois que quand on est converti, quand on appartient au Seigneur, il y a quelque chose qui brûle. C'est pas notre amour, parce que notre amour il vaut pas plus qu'un vêtement souillé, ouais, notre justice, mais notre amour c'est l'amour de Christ qui brûle dans nos cœurs. Et là, à ce moment là c'est autre chose, parce que sans lui, sans sa grâce, sans sa miséricorde, sans son amour, sans sa bonté, et tout ce qu'il peut y avoir, on n'est rien du tout. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et à partir du moment où le Seigneur va insuffler ce souffle de vie, d'amour, de grâce, alors à ce moment-là, nous allons devenir des nouvelles créatures. Je reste à peu près conforme à l'évangile, non, ça va? M'a témoigné tant d'amour. Regarde, Simon, toi, tu n'as pas fait le petit geste, tu n'as même pas levé le petit doigt, alors que ça aurait été le minimum que tu pouvais m'offrir. Tu m'invites à manger chez toi, bon, c'est bien, c'est sympathique, mais dans ton accueil, c'est pas ça. Alors que cette femme qui n'était pas invitée, elle a tout donné, elle. Tout donné. Mais celui qui pense avoir peu de choses à se faire pardonner, votre traduction est peut-être un peu différente, c'est pour ça que j'ai pris cette version à cause de ce verset. Mais celui qui pense avoir peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Quelquefois, en lisant ce texte dans la version que vous avez, traditionnelle, classique, on se dit, mais qu'est-ce que Jésus veut dire à travers ça? J'ai trouvé que dans cette formulation, elle est peut-être plus accessible à la compréhension. Celui qui pense avoir peu de choses à se faire pardonner. L'homme suffisant, le pharisien qui dit « moi, je fais ma religion, j'accomplis mes devoirs religieux, je donne, voilà, ma dîme, je fais du bien autour de moi, etc. » Donc, bien, hein, pas de problème. Mais il n'est pas conscient que finalement il est comme le plus grand et peut-être comme le pire des pécheurs, mais sans le savoir. Et c'est parce qu'il ne le sait pas. Il dit « mais pourquoi je donnerais de l'amour? Pourquoi je ferais ceci? Pourquoi je ferais ça ?» Vous savez, les gens qui ont reçu beaucoup même de la part des autres hommes, vous savez, je crois que quelqu'un qui est condamné à mort et qui reçoit la grâce présidentielle ou royale, ben il doit s'en souvenir quand même, hein. Enfin, c'est terrible quand il recommence les mêmes bêtises, hein. Moi, je pense à un personnage que nous connaissons bien. C'est le larron ou le bandit sur la croix qui va se repentir in extremis. Bon, il n'a pas eu le temps de faire encore grand chose d'autre, hein, après, puisqu'il est mort. Mais toujours est-il que, c'est une explosion de vie, une explosion de salut et de réception du salut, puisque son sauveur était à côté de lui. Eh oui. Seigneur me doit pas grand-chose, hein. Et moi, je lui dois pas grand-chose non plus. Alors, c'est vraiment la misère, là. Quand on parlait de femme misérable, eh bien, celui qui peut raisonner comme ça est encore plus misérable que misérable, hein. C'est véritablement une indigence morale et spirituelle terrible. Jésus va se tourner vers la femme. Il va lui dire « tes péchés sont pardonnés ». Ouah, scandale. C'est facile de le dire. Je peux le dire à n'importe qui. « Tes péchés sont pardonnés ». Oui, c'est pas moi qui pardonne les péchés. Mais quand Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », c'est qu'ils sont réellement pardonnés. Dans la réalité. C'est autre chose que le pardon des hommes après confession. Les autres invités commencent à se demander, et voilà la question, mais qui donc est cet homme qui ose pardonner les péchés? Parce qu'à chaque fois que Jésus apporte la notion de péché, de mal, de mal pardonné, alors à ce moment-là, ça remue ciel et terre. Hein. Il n'arrive pas à comprendre. Puisque dans la conception classique des choses, il n'y a que la religion qui peut pardonner. Si vous êtes absous par la religion, ben vous irez au ciel. Terrible, hein? Quand on voit un peu tout le déploiement de trafic qu'il peut y avoir derrière, parce que parlons de trafic, hein. Pendant des siècles et des siècles, le classique de la religion chrétienne, ça a été justement l'association de pardon avec de l'argent. Alors où est la grâce dans cette affaire? Où est la grâce? Mais Jésus dit à la femme, c'est ta foi en moi qui t'a sauvée. Rentre en paix, parce que c'est ça, quand il y a pardon, quand il y a acceptation du pardon, quand il y a réception du pardon de Dieu, qu'est-ce que ça donne? La paix. On est en paix avec Dieu. Et on va être en paix aussi avec les autres. Alors, c'est l'arme d'amour. Je vais terminer. C'est l'arme d'humiliation dont nous avons parlé, de honte ou de dégoût d'elle-même. Son amour, donc, n'est pas la cause. Écoutez bien, son amour n'est pas la cause, mais la preuve qu'elle a reçu le pardon. Deux choses différentes, la cause et la preuve. C'est parce qu'elle donne la preuve, finalement, qu'elle est vraiment pardonnée et qu'elle a reçu ce pardon par la foi. Elle croit pleinement à la grâce. Et autant que nous pouvons ouvrir la Bible, que vous lisez la Bible, voyez à travers en filigrane, voyez toujours la grâce de Dieu. La grâce pleine et entière. Et elle sait qu'elle peut être pardonnée, mieux qu'elle est pardonnée. Parce que Jésus le lui dit d'ailleurs. Simon, dans sa propre justice, est encore loin du compte pour croire. Oui. Pour être sauvé, il faut savoir qu'on est perdu. Autrement, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens. Le mot sauvé correspond à, eh bien, tout simplement, cet autre mot qui s'appelle perdu. salut correspond à perdition. Et quand on est véritablement conscient que nous sommes perdus, que sans Dieu nous ne sommes rien, alors à ce moment-là, eh bien, on se tourne vers lui et on crie. Que faut-il faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est simple? Oui, là où la grâce, là où le mal, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse ce soir et nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Nous voulons ouvrir ce livre merveilleux, ce livre lumineux, ce livre qui nous parle de l'amour de Dieu. Et nous voulons croire, Père éternel, que notre Dieu est un Dieu juste, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui se plaît à faire grâce. Eh bien, Seigneur, ce soir, nous voulons te demander que tu graves dans nos cœurs, eh bien, Seigneur, tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions prendre conscience ou être renouvelés dans notre conscience, dans notre connaissance, où tu nous le dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, je te rends grâce pour cette belle histoire de cette femme qui a déployé, Seigneur, en effet, Père éternel, tout son amour, et nous voulons croire, Père, que son amour n'est pas la cause de son pardon, mais c'est la preuve du pardon de Dieu. Et nous te bénissons. Alors, lorsque nous avons compris cela, aujourd'hui, nous sommes de nouvelles créatures. Aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Eh bien, il y a des conséquences merveilleuses et formidables. Seigneur, nous voulons être ces hommes qui prêchons, qui témoignons de la grâce immense de notre Dieu. Et nous te louons et nous te bénissons. Bénis chacun d'entre nous. Tu passes au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, au milieu, Seigneur, de ceux qui sont là. Et ainsi, Seigneur, tu nous donnes de comprendre, eh bien, toute la dimension et toute la valeur de la grâce que nous saisissons par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Oui, Seigneur, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Merci, Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.